rien d'aussi beau que les visages des insurgés. Rien dans ce monde n'est aussi attirant, n'est aussi rempli d'espoir. Aucun journaliste, aucun politicien, aucun leader religieux ou autre ne pourrait jamais effacer la beauté de la révolte ou l'enterrer sous des discours sans joie ni désir.
C'est tout d'abord cette beauté qui nous frappe quand nous apprenons des révoltes en cours dans le nord de l'Afrique et ailleurs, de Tunisie au Liban, d'Égypte à l'Algérie. Malgré les dizaines de morts et les milliers de blessés et d'arrestations, la peur est en train de laisser la place au courage. La tristesse est surmontée par l'espoir, la misère d'être réduit à survivre se transforme en cri de vie.
On pourrait s'interroger sur les conditions économiques dans ces pays, sur la hausse des prix des denrées alimentaires, sur le chômage, sur les régimes autoritaires. On pourrait démontrer comment aussi ici en Belgique, comme en France, toujours plus de gens sont jetés par-dessus bord, condamnés à accroupir dans des centres fermés, des prisons, exploités à merci et dans des conditions toujours plus dures, subissant au quotidien l'autorité sous toutes ses formes.
Mais le temps de se lamenter doit prendre fin. Nous sommes nombreux, ici et ailleurs, à se retrouver coincés par ce monde où seul l'argent compte, où nos habitations ressemblent toujours plus à des taudis, où la pollution industrielle nous empoisonne petit à petit. Ceux d'en haut vont pousser leur exploitation et leur domination encore plus loin. Ils nous parlent de crise économique et nous appellent tous à accepter le durcissement de la vie sur tous les niveaux.
Évidemment, il y a des différences entre ici et le là-bas. Même si le règne de l'argent ne connaît pas de frontières, même si un régime, tous les régimes, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, signifieront toujours oppression, enfermement, exploitation. Mais la révolte, elle, dans toute sa beauté, fait exploser les différences. Une banque cramée en Tunisie, en Égypte, appelle à une banque cramée à Bruxelles, comme la libération de prisonniers par les insurgés en Tunisie appelle au rasement des murs des prisons d'ici, comme des hommes et des femmes côte à côte, derrière la barricade, appellent à en finir avec la soumission et le patriarcat.
Ce qui alimente la révolte, ce n'est pas seulement le dégoût des conditions de misère. Non, l'oxygène du feu de la révolte, dans toutes les langues, c'est un début de liberté. Cet inconnu qui est tellement absent dans ce monde, mais qui se relève fièrement lors de l'acte de s'insurger. Et alors là, tout peut commencer à changer.
Laissons donc de côté toutes les analyses des spécialistes politiques, des journalistes chevaliers de la démocratie, de ceux qui s'apprêtent déjà à prendre la place des Ben Ali et des Moubarak de ce monde. Nous sommes simplement du côté de ceux qui, en Tunisie et en Égypte, comme ailleurs, savent que la liberté n'est ni la loi, ni la charia, qui ne veulent ni patron, ni gouvernement, qui veulent essayer de vivre en homme libre parce que, lorsque la révolte, ils ont déjà goûté que c'est possible et que c'est doux. Amour et courage pour les rebelles de partout.
Mettons-nous aussi le feu à la poudrière.
Vous êtes sur NT Chaîne.
De ND Chaîne, on va parler de plusieurs trucs. D'abord, on va parler un peu de l'Égypte à travers la traduction d'un documentaire sur les révolutionnaires égyptiens. On parlera aussi de la nouvelle loi sur la prostitution. Il y aura aussi des chroniques littéraires et le fameux petit agenda cher à ND Chaîne.
Des chaînes, il est 20h16. On va donc commencer l'émission par une petite chronique littéraire. Une fois n'est pas coutume ce soir, pas de cul au programme. Une chronique.
Pour le moment.
Mais le meilleur reste à venir. Et donc, ouais, ce soir, un classique de la littérature française, Voyage au bout de la nuit, de Céline. Crevure antisémite et vichiste, mais néanmoins romancier génial. En tout cas, que moi j'ai découvert un peu sur le tard et qui m'a franchement fait beaucoup de bien et qui m'a beaucoup plu, en tout cas pour Voyage au bout de la nuit et aussi pour son deuxième roman le plus connu, Mort à crédit, qui sont écrits un peu dans le même style. Et donc, ce qui est donc assez bien avec Céline, au-delà de l'aspect antimilitariste et donc avec une portée réellement politique et un chouïa subversive. Dans ce roman, donc Céline use et abuse à merveille d'argot, mais d'un argot assez particulier qui lui est propre. On va dire que il est parfois qualifié, donc l'argot de Céline, de factice, mais nous avons ici affaire à un argot littéraire. Il ne se résume pas à quelques mots d'argot posés ça et là dans les phrases, mais à une syntaxe particulière, une écriture phonétique qui vise à recréer une impression de langage parlé. Le texte est parsemé de néologismes, de trouvailles argotiques, de morceaux de phrases jamais répertoriés comme tels, mais qui sonnent pourtant étrangement familières. Et donc, je vais vous lire sans plus tarder un petit passage qui se trouve donc au début du roman. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France, et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur. Pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé et couillon toujours. Il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinion. Ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles. On en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants. Mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on est pas sage, il serre. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des rien, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini, mais à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste. Et puis voilà tout. Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici. Et tout ce qu'il y avait d'avancer dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière, vengeresse et sociale, dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or, c'est le titre. Et je lui récite alors. Un dieu qui compte les minutes et les sous, un dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombent partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses, c'est lui, c'est notre maître. Embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis, moi, pour l'ordre établi. Et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi, bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc voilà, ça c'était un petit passage de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, qui disait, entre autres, que le cul est la petite mine d'or des pauvres. Voilà, ça c'était mon petit passage sur le cul obligé. Et donc juste pour conclure sur l'argot et la littérature, je peux vous parler très vite fait, mentionner l'étude sur l'argot français de Marcel Schwab, qui est un excellent écrivain du 19e, qui nous a fait redécouvrir, en tout cas à son époque, François Villon, hein, dont je vous avais parlé dans une chronique précédente. Et qui s'est intéressé donc à l'argot de son temps, de Villon aussi, des coquillards, l'argot de Partouche et de la Cour des Miracles. Et donc le bouquin est pas mal. Et il dit justement sur l'argot qu'il est une langue artificielle destinée à n'être pas comprise par une certaine classe de gens. et ceux qui parmi les malfaiteurs sont appelés poteaux ont reçu la longue tradition du maniement du langage. Ce sont les poteaux qui reprennent les mots, oubliés pour les lancer de nouveau dans la circulation. Ils sont encore les grands maîtres de l'université de l'argot. Voilà, donc ça c'était Marcel Schwab, étude sur l'argot français, paru chez Alia. Et enfin, pour finir, l'argot des prisons, dictionnaire du jargon tolard et maton du bagne à nos jours. Celui-là, j'ai failli pas vous le chroniquer parce que son auteur, c'est monsieur Jean-Michel Armand, triste cire, cadre pénitentiaire. Donc, je vous conseillerais plutôt de le barber, de le chouraver, de le choucrouter, de le chourer, de le faucher, de le péta, de le tirer. L'argot des prisons. Voilà pour la petite chronique littéraire de NDChen.
نيكلا بوليس خويا الخوفة من ربي مادامهم عايشين للحقرة عم يربحوا غير زبي أيا سيب بالسامبل
سيب أيوا نيك لا بوليس نيك لانجستيس نيك تو موند نيك لا مونتاليتي الخاسرة اللي خلاتنا في الديار موند لهنا اللي يقوي يطغى والحق نقولك راني كرهت من لامي ديتني طع لامي ديتي راني لهنا اللي يد بلاصة في بوست مليح مادا بيه يبخوه مادا بيه يطيح عربي يحقر العربي عار كبير بوليسي يحقر الشعبي علاه تحير خاطرك مكومبلكسي لا مونتاليتي اسوا في عنده موك دي ريسبونسابيليتي شوفوا كيف نهبي ينصح رب المقلة هو جيعان في كرشو مشتاق ماكلة لوم حتى واحد خويا دنيا قحبة مدام الانجينيار في بلادنا خدم نصبة عم تيزاو هالو عم دارو تير قريب يقولوا للليجن
روحوا صرخوا خير
نيك لي ريسبونسابل نيك لا وحق الشعب نيك لي دارو دراهم على ظهرنا بلا تعب نيك لا بوليس لي تحقر في الشعب انجليز نيك لي طا نيك لو بالي جيستيس
نيك 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 خالدة
نيك Nick, Nick la police, Nick l'État, Nick la justice
Nick, Nick l'Ola, Nick l'Okuma, Nick l'Ola
Nick, Nick, Nick les gendarmes, Nick les motards, كل des bâtards
Nick la police, Nick l'État, Nick l'Ola كامل راسة واحدة كامل عايشين في القوادة ولاد سواولة يسيزيولهم في الدخان ولي دخل السطلة ما يقيسوش خاطش قلاوي خشانة يحقروا اللي ما عندوش واللي عنده يقودولو نيك قصر الرئاسة ما مشي كلكم قولولو جايبين عمر الشعب يحقروا في الزوالي نيك ديفيزيونار نيك كوميسار نيك الوالي نيك جينيرال نيك الوزير نيك ديبيتي كاع ديبيت نيك بي ام بيجي كاع ديبيدي كاع حقارين نيك العطايا داك اللي رفدني فرحان وفرحان ميت بالفرحة كيزوزني ديديكاس من عندي للناس الكبيرة في الغبرة اللي يصطل بديكي ولا اللي يسوق بكارو شيرة للناس اللي مفيشي اللي عندهم نيميرو ديكرو نيك لا بوليس في الفيس في الطيرو في الطيرو
نيك عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطان نيك لا جستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة نيك حكرونة
نيك 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 لي جندرم نيك لي موتار كل دي باطار
دارا كابر مع الهموم الميزيرية صح صح ماشي سية هادي جية هادي بلية كره كره خويا شوف الحياة شوف البلاد اه خويا ليب ناري اليوم زاد هذا بيت كبير السلطان حتى المير خلي الشعب يضاع خلي الجوان يضاع خلي الدم يساح خلي الفور يجيح هذا ناف ماشي قوادة ديما عالي ديما الفوق دوبل شور هو في زمان يجري زمان يدور تمنيت ها توجور قبل ما نزور دوك القبور صغري فات فات حزين حبيت نتهنى يا لطيف قلبي دبال بورتو حنان خلي الفية خلي السيف جيب السيل وجيب الورقة ما بين تساب ولاد البحر حق اخو راني سيت فاك مضرب وتفليق راني كمو واش عطالي ما على بالي بحتى واحد واحد يرأس روحو راني حر يا خالدة كباري في بلادي والسوا ولا تقوى مي في يبقى عالي لا كتاف ولا قلوة زوالي وراني عايش في وجه الدير والحجرة تعيش هي جزاير حرة مستقلة حرة مستقلة حرة مستقلة
نيك 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 بوت الفريقة نيك عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة نيك حكرونة
نيك 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 لي جندرم نيك لي موتار كل دي بطار
نيك نيك بوت الفريقة نيك عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك نيك الدولة نيك حكومة نيك حكرونة
نيك نيك لي جندرم نيك لي موتار كل دي بطار
لا 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 لا
Ouais, c'était Nick la police, un morceau de rap algérien, voilà, et donc une petite pensée bah, pour tous ceux qui en Algérie
continue de se battre et de se soulever, même si là-bas, eh ben, ça n'a pas pris les mêmes proportions, en tout cas au niveau des changements de pouvoir. Bah voilà, il continue à se passer plein de choses en Algérie, notamment d'énormes barfs de chômeurs. Donc bah voilà, je vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Nick la police, Nick Bouteflika.
Voilà.
Nick l'Arlouche.
Nick l'Arlouche. Et donc voilà, en fait, au début là, donc sur le générique de ND Chaîne, vous avez peut-être donc entendu et voire reconnu, si vous l'aviez lu ailleurs, donc un texte qui avait été écrit par donc un collectif belge qui a pas signé l'affiche, mais donc qui était en soutien aux révoltes qui se passaient en Tunis et en Tunisie et en Égypte plus précisément. Donc là, nous, on voulait parler un peu de l'Égypte. On va écouter à un moment un reportage. Un interview qui parle donc plus ou moins en partie des résistances qui se passent en Égypte. Et donc juste de rappeler qu'effectivement la situation égyptienne a au moins quelque chose de très très différent des autres pour du moins la Libye ou la Tunisie, voire même l'Algérie. C'est-à-dire que bon, en Égypte il y a quand même 85 millions d'habitants alors qu'en Tunisie ils sont 10. Tout ça sur un continent africain de 840 millions, donc ça fait quand même 10% de la population africaine. Donc à savoir que ça va quand même pas être si simple et que c'est donc le troisième pays le plus grand d'Afrique, avec quand même le Nigeria, qui lui, avec ses quasiment 140 millions d'habitants, n'a pas non plus trop intérêt de péter. Donc de savoir qu'effectivement, il y a eu un soulèvement qui a été daté du 11 février 2011, on dira, où il y a eu le départ de Moubarak, pour mettre à la place, suite à une élection, comme dans plein d'autres pays, le parti de la liberté et de la justice. En fait, le parti des frères musulmans, comme en Tunisie, ou qui s'appelait aussi le parti islamiste, ils ont changé pour le nom Ennahda. En fait, ils ont pris un nom qui serait soluble dans la démocratie. Voilà, donc ils se rappelaient qu'en Syrie, pas loin non plus, quoi. Ou même déjà, par exemple, les frères musulmans, alors que la révolution, on peut pas vraiment dire qu'elle soit aboutie, eux sont déjà en train de rouvrir les écoles qui ont été détruites par les uns ou par les autres, on ne sait pas, et mettant donc du coup, s'autorisant pour le coup à changer les programmes scolaires, puisque c'est eux-mêmes qui rouvrent les écoles, au risque effectivement de prendre aussi des bombes sur la gueule, mais dans tous les cas, se permettant de remettre le Coran à l'ordre du jour dans toutes les écoles qu'eux-mêmes rouvrent, qui sont aujourd'hui plus ou moins les seules écoles ouvertes en Syrie. Voilà, aujourd'hui, il y a le FMI qui met sur la table quand même pour l'Égypte 4,8 milliards de dollars pour essayer d'arranger un peu la sauce. Tout ça, il le file effectivement à Morsi. Donc Morsi qui est quand même le premier civil élu depuis des années après donc la brochette de militaires auxquels ils ont eu droit, et cela grâce à la démocratie, hein, faut pas dire quoi. Donc c'est grâce à la démocratie qu'aujourd'hui les frères musulmans sont considérés comme une ONG, donc ils font partie du civil, une grande grande ONG qui essaye d'aider les peuples arabes à travers le monde, voilà, en subissant toujours le même problème de la pyramide, puisque c'est aussi un parti hiérarchisé avec ses grands chefs, ses petits chefs, qui doit aider le peuple mais qui doit bien rester à sa place. Aujourd'hui, en tout cas, les Américains s'amusent à savoir que on peut considérer quasiment que c'est un pays à la dérive, aujourd'hui en déroute, on parle bien de l'Égypte, et donc qui pourrait s'avérer être pour eux intéressant via les frères musulmans à essayer de reprendre les marchés qui sont là-bas et qui sont énormes. Voilà, c'était aujourd'hui donc le lundi de Pâques, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais c'est aussi peut-être l'occasion de crier, tirer un peu sur les curés. Voilà, pour le coup, je vais pas forcément faire que des amis, j'imagine, sur Radio Galère, mais envie de tirer sur les curés musulmans, voilà, tous les barbus. Alors bien sûr, on aura entendu facilement une petite alerte au respect. Il faut respecter. Alors bon, du Père Noël à Marx, de Yalatollah à l'Oncle Sam, pour moi, c'est un peu la même. Il y en a marre des barbus, et pourvu qu'ils partent.
Et ouais, du coup, on va vous passer un petit, un docu qu'on a traduit, là, qui est, que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle Global Uprising. Vous pouvez aussi trouver le lien sur dndf.org. Donc, je vous lis un peu le petit synopsis qui présente ce documentaire. 2 ans après que la révolution en Égypte a commencé, l'agitation continue à travers le pays à mesure que la situation politique et économique empire. Face au gouvernement actuel qui consolide son pouvoir, les revendications de la révolution semblent s'éloigner plus que jamais. La révolution a cependant ouvert de nouveaux espaces pour l'action politique, stimulant le débat public sur des questions qui sont en partie non reconnues et non résolues depuis trop longtemps. Ce court documentaire couvre les motivations des révolutionnaires pour continuer à prendre les rues, les obstacles auxquels ils font face et la tactique qu'ils utilisent. Ils éclairent les problèmes économiques et les politiques actuelles, que les Égyptiens affrontent, la croissance du mouvement syndical indépendant, les tactiques des Black Blocs et la réponse aux violences contre les femmes. Donc, je vous laisse écouter ce docu qui est sur Internet disponible seulement en anglais sans sous-titrage. Mais, ouais. Mais sur une des chaînes, il est sous-titré.
Il est sous-titré et on reparle après effectivement des mouvements en Égypte, des anarchistes du Maghreb.
Bien que la répression économique et politique subsiste sous le nouveau gouvernement, de nouveaux syndicats indépendants se sont multipliés dans le pays.
Prior to the revolution, January 25th, 2011, we had four independent trade.
Avant la révolution, le 26/01/2011, il y avait seulement 4 syndicats indépendants. Depuis, plus de 1000 syndicats indépendants sont nés. La plupart d'entre eux soutiennent les grèves des travailleurs, les appelant à revendiquer pour leurs droits fondamentaux. La nouvelle constitution introduit des lois qui suppriment des droits auxquels les travailleurs avaient accès auparavant et aussi de nouvelles mesures répressives comme par exemple le travail des enfants, le travail obligatoire ou les tribunaux militaires pour les civils. Les syndicats indépendants ont appelé à s'opposer à cette constitution parce qu'elle violait les droits fondamentaux des travailleurs. Ils ont organisé la résistance sur les différents lieux de travail. Le gouvernement a répondu en introduisant d'autres lois qui criminalisent les manifestations et les grèves au prétexte que ces mouvements fragilisent l'économie nationale. Les travailleurs ont ignoré ces nouvelles lois répressives et ont continué à manifester. Je crois qu'aucune loi, règle ou décret ne parviendra à stopper les grévistes dans leur lutte pour défendre leurs droits. Qu'importe les problèmes posés par la nouvelle constitution, ils continuent à lutter.
En réponse à la répression du gouvernement, de nouvelles tactiques apparaissent dans la rue. Une d'entre elles, les Black Blocs égyptiens, a fait les gros titres de la presse internationale. L'émergence des Black Blocs en Égypte a coïncidé avec le deuxième anniversaire de la révolution, mais c'est surtout à partir de novembre 2011, quand des manifestants se sont fait attaquer aux abords du palais du gouvernement par des gangs électoralement affiliés aux Frères musulmans, que les Black Blocs se sont développés.
Ce qui a fédéré les gens autour des Black Blocs en Égypte, c'est qu'il y a eu beaucoup de récits, de témoignages, de personnes qui disent avoir vu des milices des Frères musulmans au bord du palais présidentiel attaquer des manifestants en novembre et décembre de l'année dernière. Au moins 10 personnes sont mortes lors de ces affrontements. À cela s'ajoute que le procureur de la République, qui était proche du gouvernement Morsi, a officiellement criminalisé le Black Bloc en le classant comme organisation terroriste. Les Égyptiens deviennent conscients des mensonges et des promesses de l'État, si on peut appeler cela des promesses. Ils ont perdu leurs illusions face à l'absence de progrès et de liberté que leur offre l'État. Ils ont réalisé que le moment où ils avaient le plus de liberté, c'est quand ils s'organisaient indépendamment et sans la médiation de leurs soi-disant représentants.
L'apparition d'attaques de manifestants par la foule a particulièrement affecté les femmes, qui ont été victimes de viols collectifs et d'agressions sexuelles, parfois avec des armes blanches.
En fait, ça a commencé avec un assez petit nombre, 7 à 8 hommes, 15 tout au plus. Et soudainement, ce nombre est passé à plusieurs centaines. Ces hommes s'en prenaient à une ou deux femmes, les attrapant, touchant tout ce qui était à leur portée, essayant de les ploter par tous les moyens. Ces hommes étaient armés de couteaux de combat ou de couteaux de cuisine.
En réponse, les femmes et les hommes qui les soutiennent ont lancé une campagne à grande échelle pour dénoncer les violences sexuelles et ils se sont organisés en brigades d'autodéfense pour protéger les femmes dans les rues.
Le mouvement contre le harcèlement et les agressions sexuelles a été créé en novembre 2012, quand nous avons été témoins d'un grand nombre d'attaques de femmes par des foules sur la place Tahrir. C'est là que nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes tous portés volontaires pour essayer d'arracher ces femmes aux mains des foules qui les attaquaient. Nous nous sommes divisés en différents groupes d'intervention. Certains vont au milieu des affrontements pour secourir les femmes, d'autres s'occupent de la deuxième étape, une fois que la femme a été secourue et qu'il faut voir ce que l'on peut faire pour prendre soin d'elle, pour l'aider. D'autres encore patrouillent sur la place. Donne des informations sur le mouvement de protestation en général, mais aussi sur le harcèlement sexuel et sur la hotline que les gens peuvent appeler s'ils ont besoin d'aide. Nous essayons d'encourager les femmes à se rendre sur les places. Nous ne les forçons pas à se rendre aux manifs, mais nous leur disons, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent marginaliser les femmes.
Le 26 janvier 2013, pour le deuxième anniversaire de la Révolution, il y a eu des attaques violentes contre des femmes pendant les célébrations publiques sur la place Tahrir.
C'était affreux le 26 janvier 2013. Tout d'abord, les premières annonces d'attaque nous sont parvenues très tôt. Je veux dire par là que nous pensions qu'elles ne commenceraient qu'après la tombée de la nuit. Nous avons dû intervenir dans au moins 19 cas, dont 6 nécessitaient une assistance médicale. Le 26 janvier, des armes ont été utilisées. Une des interventions que nous avons eues à effectuer ce soir-là concernait un viol avec un objet tranchant. C'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas.
Le conseil de la Shura, la plus haute chambre d'Égypte, a fait porter la culpabilité sur celles qui avaient été attaquées ou violées, arguant qu'ils ne pouvaient pas protéger les femmes quand celles-ci choisissaient de manifester. Au fur et à mesure que les attaques contre les femmes se multipliaient, le nouveau gouvernement a suggéré des solutions qui accentuaient l'exclusion des femmes de la sphère publique. En réponse, les femmes sont descendues dans la rue pour affirmer clairement qu'elles ne se laisseraient pas intimider dans leur désir de participer à la vie publique.
Lors de la première marche contre les violences sexuelles, qui défilait en direction de la place Tahrir, on a pu voir des femmes qui manifestaient en portant des couteaux. Je pense que le message était « Nous ne sommes pas faibles, nous pouvons nous défendre, nous pouvons vous attaquer à notre tour. Nous pourrions même vous castrer si nous le voulions, parce que nous ne sommes pas des moins que rien, et nous pouvons nous défendre. » L'émergence du mouvement féministe a été une des rares choses prometteuses le 26 janvier, ainsi que la solidarité venue d'autres pays, notamment ceux du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.
Des chaînes 88.4 et voilà, donc du coup c'était un extrait, enfin quasiment tout le documentaire qui est disponible sur internet, donc je rappelle sur vous pouvez trouver le lien sur dndf.org
et donc ouais, moi de rajouter là au sujet du Black Bloc, en tout cas de ce qui se passe en Égypte dont on entend très peu parler, où peu à peu il y a une situation qui est de plus en plus critique au niveau alimentaire et au niveau financier, parce qu'effectivement, dans tous ces endroits, il y a une révolution. Aujourd'hui, si les frères musulmans arrivent à prendre le pouvoir, c'est parce qu'ils font quand même office de personnes à la morale impeccable, sans corruption, et qui pourraient effectivement proposer une alternative un peu aux escrocs précédents. Mais en même temps, dans ces endroits-là, où d'un coup, la population est amenée à être bercée par tout un tas d'idéologies différentes, où la parole est quand même vachement déliée. Il y a un peu, effectivement, toutes les versions, les plus gauchistes qui pensent à tout changer pour que tout reste pareil, qui tiennent le crachoir et qui arrivent à se démener avec des organisations bien huilées sur des copies de ce qui se fait déjà en Occident avant, et aussi avec de l'argent qui vient largement un coup des pays américains, un coup des fonds européens, et au même titre là pour ce qui arrive à l'Égypte, il faut pas oublier le Qatar aussi qui fournit des aides, tout ça pour essayer de maintenir l'ensemble. Mais il s'avère qu'il y a aussi une parole plus anarchiste, plus anarchisante, on dirait plus facilement libertaire et horizontaliste, c'est-à-dire pour le coup en plus présenté avec beaucoup moins de connotations qu'il y a dans nos pays. Les gens écoutent ce discours au même titre que les autres, et là pour le coup il y a des propositions. Enfin, des propositions, des réels, et qui dépassent ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ou d'un coup, on peut aussi imaginer des gens qui parlent d'autosuffisance alimentaire du pays qui a fait la révolution, de définitivement arrêter de payer la dette et de même bannir l'argent du pays, de chasser tous les riches, tous les bourgeois s'ils veulent partir avant de se faire pendre haut et court, comme pourrait dire Barzouki. Et où donc, effectivement, cette parole arrive à se délier et prendre des formes qui sont des plus engageantes quelque part. Je ferai notamment référence à un texte qui est écrit, qui s'appelait « Comme la mer », que vous pouvez trouver, je pense, toujours aussi facilement sur Internet, qui est écrit par les anarchistes égyptiens et qui expliquait qu'il y avait cette espèce de troisième révolution après celle qui a fait partir le dictateur, après la fausse révolution qui a fait venir le curé, et ben celle qui enfin fera disparaître les leaders. Voilà, c'était un hommage dans tous les cas à tous ceux qui se battent en Égypte et qui prennent des bastos aujourd'hui, comme ceux qui se battent en Tunisie et qui prennent aussi des bastos aujourd'hui, comme ça se passe aussi en Algérie. Et à savoir que pour l'instant, de tout ce qui a été mis en place, français, américains confondus, au Bahreïn, au Yémen, en Irak, où partout ils ont pu foutre les pieds, bah voilà, c'était vraiment pas glorieux, quoi. Voilà. Et petite touche d'espoir. Dans tout ça, voilà, vive l'anarchie. En attendant, je garde ma cagoule.
مجتمع غابة عبيدو حيوانات شوف اللي كبره بالهدر واللي حياته مشاتة تب اليوم تجماني ماما الدنيا غلاتة ومنيته يخلط يحلم حلمة كل عبادة في بلاد الرشوة كاش في بلاد الفسادة في بلاد الزوالية هزت ساقيها باش ولاتة في بلاد الدهك وما تقولش يا زيني عييت وين تربيت وين الدين نسيت غادي وانت تشمس تبع عامو بس ما تعديت ود الحومش عامل باللي عامل عامل زيتة فكجبت الحرية ايش بك ليكش تحت الحيطة العيشة مرقة فدا وخنقز الخفرقة انسى الحرقة جيب الكارة جيب الورقة وبرم عياني مش بالسرقة اخويا النوم في نيش الحلقة غدوة روبلوت البياسة في نفس الزنقة كيما قالوا ناس بكري الناس لقدم مصروف الضحكة والنحو في الزمم عشاق السم الشي يمشي في الدم كم يتنحي الفدة كم يتنحي الغمة تنسي لما كم يتنحي الهم جبينك مرخوف يحرق امك تتعسي مليح وانت ديما مادد فمك ما تسأل والو حومة اضرب واش يهمك في نهج الحالة على عمرك ما تدور خايف تلبس من غير محبة يقطع الشفايف
ريتو شي سراق يكرهنا شغاف الظلمة ريتو شي بوليسي عندي في واحد أعمى ريتو شي زبالة مروح مرحم الخدمة ريتو شي رئيس تونس فرح لما
ريتو شي سراق يكرهنا شغاف الظلمة ريتو شي بوليسي عندي في واحد أعمى ريتو شي زبالة مروح مرحم الخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما للحكومة هذه بلادي أنا وينتي العباد مظلومة ما فهمت ماشي لعبة بانتي حسرة عالمارة كان حسرة عليا من السمارة أمني طوي فرنسا جيب الفلوس نعمل سيارة يمشي لي مع الفياسة ويروح لي مع الحجارة اي كلها لباسة كلها سهارة وتقول لي كيفاش فلوس الشعب تروح خسارة مرفوض تخرج عريانة عنده قمة الحضارة جبيني مراكش في القصبة وفي باب منارة فكل الأحزاب واللي قاعدين يدوسوا هزوها للمطار زيدوا عنقوه وبوسوا صرخ البلاد تي خلاوه هز فلوسه ثورة طلبت صبيح الكلب على بعبوسه السمسي فمو مهلوك يصلي فوه وفات فلوسه لازم المؤخطة تطيح كيما تحت دروسه في قالب غلطة في ولاد الشعب مورطة أحزاب البري والفوق أم بغاي هوني مخلطة كلهم طالعين في الكرسي كيما الحكومة المؤقتة احنا جبنا الحرية الشيخ وفيها ولاد ساقطة حين ما كلمة حياتك غلمة أنا فخلاه من غير ما تفرى ما دز خوه تتعب الخرمة سلك الجلمة فمو تمام راح خزنة من الدنيا العلمة ليا مات مازال خوه عمرك ما تخمم في الرجلة ما تسلم على حقك تكلم
ريتو شي سراق يكرهنا شغاف الظلمة ريتو شي بوليسي عدي في واحد أعمى ريتو شي زبالة مروح مرحم الخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما
ريتو شي سراق يكرهنا شغاف الظلمة ريتو شي بوليسي عدي في واحد أعمى ريتو شي زبالة مروح فرحان من الخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما
جيبولي بلاكا نحبس هكا تاكا نتكيف عادي من غير دراكا جيبولي بلاكا نحبس هكا تاكا نتكيف عادي من غير دراكا
جيبولو بلاكا تحبس هكا تاكا هو قالك يتكيف عادي من غير دراكا جيبولو بلاكا تحبس هكا تاكا هو قالك يتكيف عادي من غير دراكا
Ouais, Vous êtes toujours sur NDChain 88.4 sur les ondes de Radio Galère. Et donc on continue cette émission avec vite fait un petit agenda qui va être rapide parce que cette semaine il y a deux rendez-vous. Donc il y en a un samedi 6 avril à 17h au CIRA. C'est une rencontre avec Mathieu Léonard qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Émancipation des travailleurs, une histoire de la première internationale ». Donc c'est samedi 6 avril à 17h au CIRA et ça se trouve au 50 rue Consola. Et si vous ne pouvez pas y aller, ben, je vous conseille vivement d'écouter l'interview que NDChain a réalisée de Mathieu Léonard qui présente son bouquin. Et cette interview, vous la retrouverez sur notre site de NDChain. Et sinon, un autre rendez-vous, c'est dimanche 6 avril à 18h au squat qui se situe au 13 rue de la Belle de Mai. Et là, c'est un rendez-vous pour essayer de créer un collectif d'autodéfense de précaires face aux administrations. Donc l'idée, c'est de, face à ces administrations qui essayent de nous isoler, de nous faire peur, de créer un rapport de force pour les faire plier sur des dossiers, que ce soit la CAF, au Pôle emploi, les huissiers, les banques, les expulsions locatives et tout ça. Voilà, donc c'est une invitation à créer ce collectif. Et j'en profite aussi parce que je voulais lire un texte d'un collectif de chômeurs et précaires de Lille qui réagit un peu à comment le traitement médiatique de Jamel Chahab qui s'était brûlé devant le Pôle emploi. Alors le texte, il s'appelle « L'humanité qui convient ». Les règles ont été appliquées avec l'humanité qui convient, avec les explications nécessaires, mais il y a parfois des moments où on est dans une telle situation qu'on ne comprend plus les explications. Monsieur Sapin, ministre du Travail, à propos de l'immolation de Jamel Chahab devant un Pôle emploi de Nantes le 13 février 2013. Alors que la mort par immolation devant les locaux d'une administration ou sous les coups de la police devient coutumière, les discours créent un consensus qui en cache la signification possible par des phrases convenues. La bienveillance humanitaire des hommages ou les déclarations des agents de l'institution usent immédiatement le sens du geste de Jamel. L'humanisme des représentants de l'État, comme celui de leurs co-gestionnaires sociaux, ici les représentants traditionnels des allocataires de prestations sociales, explique ainsi la vie d'un individu en l'excluant d'une situation. Cette situation est politique. Pourtant, aucune signification politique ne résonne. L'invocation abstraite de la misère, comme le calcul cynique des responsabilités, crée ce silence. On dit qu'il était fou et pauvre, on va jusqu'à recalculer ses droits pour lui donner tort. On masque mal que c'est la logique même de l'institution de mettre à mort par le droit. C'est en tout cas cette institution que Jamal Chahab a désigné comme son lieu de mort. L'État a remis à un agent le soin de décider les moyens de subsistance d'un autre homme. Cet agent est sans doute lui, elle-même, ignorant du droit. Son rôle est de suivre des procédures et d'exercer un contrôle. La finalité de ses actes lui est rarement rendue visible comme les conditions d'existence qui en dépendent. C'est ainsi, silencieusement, que la société transpire le fascisme. Ce dispositif entame nos vies dans les nécessités les plus brutes, mais aussi sous l'aspect moins discernable de l'image que l'on se renvoie. Cette image est celle de la honte et de la mauvaise conscience. On nous fait croire que nos droits sont des dettes, et par là on réduit notre horizon d'action, nos projections dans le monde. De même, on réduit notre action au sein de notre travail à une activité sans sens et parfois assassine. Enfin, on continue d'affirmer que ces activités ont une valeur et nous sont désirables. Nous ne voulons pas définir la volonté de Jamal Chahab, sa vie comme le montrassait son suicide lui appartenait. Mais nous ne voyons pas comment nous pourrions donner un visage à cet homme sans déclarer la guerre à ses institutions. Sa vie était réfractaire aux projets calculés, comme le sont les nôtres. C'était le collectif de chômeurs et précaires de Lille.
Mais là, donc, on va essayer de passer le montage dont le sujet, c'est...
Bah, en fait, c'est une petite réaction, alors non pas à une nouvelle loi, parce qu'il n'y a pas encore de nouvelle loi, ça c'est pour l'automne, mais j'en parlerai après le montage. Mais il y a eu l'abrogation du délit de racolage passif qui a donc été voté jeudi. Voilà. Donc, je propose qu'on écoute un petit montage. Alors, c'est un premier montage avec une introduction d'un journaliste de la télévision française en 1961. Il y a aussi des extraits d'un film qui s'appelle J'embrasse pas, qui est un film d'André Téchiné, et des propos enregistrés lors d'une manifestation de prostituées à Toulouse en juillet 2012.
Certains spécialistes considèrent la prostitution comme un cancer de la société qu'il faut supprimer. Pour d'autres, il s'agit d'un mal nécessaire qu'il faut réglementer très strictement. La grande majorité du public, elle, pense que ces choses-là sont sales et déshonorantes et qu'il ne faut pas en parler.
Je veux pas me prostituée, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un homme.
Quoi, il n'y a rien de pire? Je l'ai bien fait, moi. Quand on n'a rien d'autre à vendre. C'est facile de faire la morale. Moi, c'est ça que je trouve dégueulasse.
Arrêtez la police du cul! Arrêtez la police du cul! Arrêtez la police du cul!
Des droits, c'est pas compliqué. Tu veux lutter contre l'exploitation, tu fais ça comment? En envoyant les flics et en les foutant en prison? C'est comme ça que tu luttes contre l'exploitation? Non, si tu luttes contre l'exploitation, tu donnes des droits aux travailleurs. Tu laisses les gens se syndicaliser, tu laisses les gens s'organiser entre la libération des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs du sexe eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Je veux dire, tu vas pas commencer à arriver en disant « Oh, nous sommes ces bonnes dames victoriennes qui vont réhabiliter ces femmes déchues. » Non mais c'est ça, quoi. C'est des bourgeoises victoriennes qui imposent leur idéologie au monde entier. Ça a servi à coloniser le monde, c'est ça, quoi. Mais c'est ça, c'est des connasses qui arrivent et qui vont te dire « Va faire de la couture, ma chérie, tu seras libre. » J'ai pas envie de leur machine à coudre, moi, d'accord? Bah, c'est sûr que quand t'as pas de papier, t'as pas 36 solutions, quoi. Donc, oui, le travail sexuel, c'est une ressource économique pour des personnes qui sont déjà exclues dans la société. Nous enlever cette ressource en nous criminalisant, en fait, c'est nous punir parce que justement, on a résisté, on a trouvé des solutions pour pouvoir migrer, pour pouvoir franchir les frontières. Et en fait, ils ne veulent pas de nous, quoi. Ils veulent envoyer les gens dans le pays, c'est ça le truc. Donc, en luttant contre la prostitution, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils luttent contre l'immigration aussi, dans la même occasion.
Mais il ne faut pas oublier que les clients sont des clients de toutes les couches sociales. Ce n'est pas uniquement... Voilà, ça peut aller aussi du préfet, ça peut aller de n'importe qui. Non, mais il faut le reconnaître, ce sont des hommes. Ce n'est pas la carrière professionnelle qui va changer un homme, on est bien d'accord. Donc ces gens-là, c'est toutes les couches sociales. Seulement sur qui on va taper? On va taper sur les petits, parce qu'eux n'ont pas les moyens de se payer des putes de luxe dans des hôtels 5 étoiles. Et les flics ne font pas de descente dans les hôtels 5 étoiles, il ne faut pas l'oublier. Donc on va encore taper sur les petits.
Je m'en doutais que t'étais une pute.
Ben ouais, comme toi. Pourquoi t'as choisi ce métier?
Toi.
Pour le fric.
Quelle pute tu fais?
C'est ce que je suis, une pute. Maintenant c'est mon métier. Tu vois, j'ai fini par y arriver.
C'est vrai? C'est le seul moyen que tu trouvais pour gagner ta vie?
Disons que... c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour... me sentir libre.
Mais ça te plaît de faire ça?
Oui, bien sûr. Je suis heureux. Ça se voit pas, non?
Le bonheur, c'est pas un truc qui s'affiche. Ça me fait penser à quelque chose. Viens voir. C'est sur le don de soi. C'est dans Nietzsche. Ça marche, je sais pas très bien où je l'ai foutu. Ah, voilà. Écoute, il n'est pas de plaisir noble qui ne puisse être ramené à la prostitution. C'est rassurant pour toi, non?
J'ai pas besoin d'être rassuré, hein.
L'être le plus prostitué, c'est Dieu, mais ça, c'est pas ton rayon. L'amour peut dériver d'un sentiment généreux, le goût de la prostitution, mais il est vite corrompu par le sentiment de la propriété.
Te fatigue pas, j'y comprends rien.
Voilà, voilà, donc dépénaliser le racolage pour pénaliser les clients. Voilà, en somme, ce que nous préparent les législateurs. Le Sénat a abrogé jeudi 28 mars le délit de racolage passif, qui prévoyait des peines de 2 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende pour le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération. Évidemment, on se doute que les sénateurs n'ont pas abrogé ce délit en solidarité avec les travailleuses du sexe, davantage traquées par les flics depuis la création du délit en 2003. La classe politique semblait presque unanime sur l'inefficacité de la mesure, qui a pourtant permis à l'État Macro quelques rentrées d'argent, grâce à des amendes prélevées directement sur les sommes détenues par la personne arrêtée. Cette loi a aussi permis de déplacer les lieux de prostitution plus loin, loin des regards, loin des quartiers où l'on fait du nettoyage pour pouvoir spéculer et gentrifier. Ce retournement législatif signifie toutefois que les démocrates ne considèrent plus tout à fait les prostituées comme des délinquantes, mais plutôt comme des victimes. Des victimes qu'il faudrait donc secourir et protéger, avec toute la bonne conscience nauséabonde que cela sous-entend. Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, qui le 16 mars déclarait « Mon objectif est bien de lutter contre la prostitution », a annoncé un plan global de lutte contre la traite des femmes pour l'automne. Il devrait vraisemblablement contenir une mesure de pénalisation des clients. Voilà. Il ne s'agit pas pour les législateurs donc, de dépénaliser la prostitution, mais d'adapter la loi dans un objectif abolitionniste, en s'inspirant du modèle suédois qui ne pénalise pas les putes, mais leurs clients. Ainsi, en Suède, quiconque se procure des services sexuels en échange d'une rétribution, quelle que soit la forme qu'elle revêt, est passible de 150 jours amende, jusqu'à 118 euros par jour, et d'une peine de prison de 1 an. En France, il est par ailleurs toujours illégal, par exemple, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution, ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux, véhicules ou emplacements, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. Tout ceci fait partie de la définition du proxénétisme, qui peut être puni jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 3 millions d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. Alors en attendant la nouvelle loi, l'abrogation du délit de racolage passif n'empêchera pas les flics de continuer à harceler les travailleuses, contrôle d'identité, coup de pression sous différents prétextes, contravention pour stationnement, présence policière nuisible sur les lieux de racolage ou même encore criminalisation des sites internet d'escorte sous prétexte de proxénétisme. La prostitution est une forme d'exploitation qui, si l'on accepte sa criminalisation, ne diffère pas tellement des autres formes de travail. Il s'agit pour tous de vendre son corps, ce que d'autres appellent la force de travail, en échange d'une rémunération. Le sort des prostituées migrantes est aisément comparable à celui des autres travailleurs migrants, cibles de patrons sans scrupules, qui s'enrichissent grâce à leur clandestinité. Comme tout autre travailleur, indépendante ou sous la coupe d'un patron, pute de trottoir ou pute de luxe, les travailleurs et travailleuses du sexe ne font pas ça par choix, mais à cause de la contrainte qui nous est imposée à tous de survivre dans un monde capitaliste et donc, d'une manière ou d'une autre, de gagner de l'argent. Voilà, alors on se lundi de Pâques, on va enchaîner, on se déchaîne avec un petit montage inspiré peu fidèlement d'extraits de Théorie de la pute, qui est une traduction d'un pamphlet écrit par un mouvement queer insurrectionnaliste américain, dénommé Bashback, ce qui signifie riposter à une agression adressée aux queers, aux putes, aux gouines ou aux PD.
Pour la pute, il est extrêmement important d'être à tout moment magnifique, à la fois en apparence et intellectuellement. En tant que fidèle déviante de la féminité, nous nous devons, dans une certaine mesure, d'afficher une haine bien sentie à l'égard de tout ce qui est immaculé et fade. Nous sommes des modèles d'obscénité, des salopes magnifiques et cinglées à admirer. Nous sommes des putes incapables de ravaler et réprimer nos émotions.
Nous sommes des contradictions à la démarche fière. Et on n'en a rien à battre. Si tu nous cherches, on va t'anéantir, toi ainsi que tout ce qui t'est cher. Si tu baises avec nous, on te brisera le cœur. On est accro au dégoût de la société. Jeunes corrompus qui ne connaissent aucune retenue,
on veut tout détruire, en talons aiguilles ou en basket, avec ou sans paillettes. La violence de nos désirs laisse un arrière-goût qui ne ressemble à celui d'aucun autre fluide corporel. C'est un venin mortel que seuls les corps des plus masochistes peuvent déguster et atteindre en rampant pour en redemander. On invite des hommes chez nous en attendant la dégradation qui garantira notre vengeance. Et d'ici là, on se fourre leur bite dans la bouche et on avale. Rien à foutre.
On contemple l'image de notre corps dans chaque reflet qui croise notre chemin et on ne peut s'empêcher de passer la journée à baiser avec lui-même. on arbore notre manque d'assurance, telle une couronne dorée qui scintille sur nos jolies têtes, fières ou honteuses, de nos nombreuses imperfections, à en crever. Nous sommes horriblement vaniteuses, et toutes les putes savent que seule une autre pute peut les satisfaire.
Être pute n'est pas une sexualité. La sexualité,
une chose pareille n'existe pas,
car elle n'est que le reflet des images déballées et des désirs imposés. Nos orgasmes sont inséparables de notre haine et de nos peurs. Rien ne nous fait jouir qui ne nous révolte également, d'une manière ou d'une autre. Nous faisons l'expérience de ce monde comme s'il était un terrain de jeu, trop laid et étriqué pour nos fantasmes. Si tu vois une pute descendre une rue animée d'un pas chaloupé, tu remarqueras peut-être ses sourcils froncés alors qu'elle marmonne rageusement. C'est parce que ta présence la dérange. Chaque corps insignifiant qui la frôle risque d'être en proie à sa haine. La haine la fait bander. Elle ne perd pas une seconde à former des hypothèses sur toi en fonction de ce que tu portes. Tes chaussures ne sont pas assez féroces. Ta démarche n'est pas assez sexy. Ton regard n'est pas assez intense. Tu n'es rien comparé aux personnes sublimes qui se cachent dans la ruelle. À l'affût, prête à t'agresser.
La politique n'intéresse pas la pute. La pute est la politique. Séduite par la douleur incessante qu'est vivre, mourir et souffrir, elle se nourrit à la fois de sa peur, de tout petit rien, et de l'ivresse de n'avoir rien à perdre. Elle pense que toute tentative de parler de ce monde avec logique n'est que pure illusion. La rationalité, cette activité inutile, typique des connards dogmatiques. Tenter de définir son contexte ou d'analyser son existence est tout à fait futile. Absolument rien ne fait sens chez elle. La pute n'a d'intérêt critique que pour l'astrologie, préférant l'opinion des constellations de nos cieux aux élucubrations de quelques vieux blancs à l'agonie, prédicateurs du grand soir. Brillamment amère, la pute s'accroche au chagrin et à la colère. Ses traumatismes coulent et palpitent avec amour dans ses veines. Pour elle, voir le monde à travers le chagrin, c'est voir en couleur. Sentir la sensation de la vie picotée dans chaque terminaison nerveuse de son corps.
La pute est tout à fait exposée. Elle est une blessure à vif, qui suppure. Une excrétion douce et mortelle sur toute chose, toute personne qui la touche. Elle est nue et dissimule ce qui lui est sacré aux yeux des autres, à jamais, dans la fente de son entrejambe. Si tu y regardes de trop près, prépare-toi à ce qu'elle te brise un membre, la lèvre, ton putain de cœur, car tu ne peux atteindre ce qui lui est précieux.
Sale espèce humaine de merde. Sale espèce humaine de merde.
Une vraie pute sait, au fond d'elle-même, pourquoi ce monde fait semblant de la détester. Elle a le pouvoir de révéler les plus indésirables de leurs désirs à ceux et celles qui l'entourent.
Les messieurs mariés et leurs épouses mortes d'ennui se trémoussent à n'en plus pouvoir à la vue de son cul, alors que les universitaires desséchés se mouillent les lèvres avec enthousiasme, excités par son esprit vulgaire. Lorsqu'elle quitte la pièce, un énorme soupir de soulagement se fait entendre. On n'est plus obligé de regarder ces perversités frémissantes en face. Seuls, dans leur chambre moderne, ils se branlent honteusement sur son image, en se détestant en silence et en maudissant la routine grossière de leur vie.
Elle rit aussi facilement qu'elle pleure. Lorsque Mercure est dans sa phase rétrograde, elle sait que la catastrophe est assurée si elle sort de son lit. Mais même le foutu alignement des planètes, qui travaille main dans la main avec cette société triviale et méprisable, ne peut empêcher sa folie de déteindre sur son entourage et son environnement. Les circonstances qui les font pleurer, elles et les autres putes, créent aussi des hystériques en puissance. Des îlots autrefois isolés dans la folie se rejoignent alors pour partager une bonne rigolade. Et peut-être aussi une petite vengeance.
La pute est une salope.
Oui.
Une salope. Un jeune délinquant.
Mais c'est aussi une clocharde.
C'est une pédale vénère.
Une gouine en colère.
Une anarchiste insurrectionnaliste en survêt.
Un toto en talons hauts.
Une folle tyrannique.
Une camionneuse romantique. Elle est tout et rien, tout le monde et personne à la fois. Glamour sous ses nombreux déguisements, transparente dans ses désirs obscènes. Elle déborde d'amour pour celles et ceux qui répandent la haine.
Rien ne lui donne plus de plaisir que de cracher au visage de l'humanité. En riant à gorge déployée, alors que les gouttes de ses crachats puants dégoulinent sur les mentons pointus, avant de s'écraser avec délectation sur le trottoir sale qui se déroule sous ses pieds.
La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, il n'y a pas de gardien. Personne vient. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs.
Tu parles bien quand tu veux.
C'est ta bouche qui m'inspire. Ta bouche et puis ton cœur. Je vais te le cambrioler, ton cœur. Ton cœur et puis tout le reste.
T'étudies certes, mais c'est superflu, tu restes stupide. Tu percutes mon rap, c'est un uppercut dans la graisse. Tu bites, c'est ma tech, tu vises. Fais preuve d'adresse, on retrouvera en pleurs ta mère sur la scène du crime. Tu veux me tester d'être façon Diana en Mercedes. C'est vraiment Havana en peste, mais cesse. Dis-moi comment t'encaisses, c'est vert. T'aimes pas les meufs qui rappent, qui te corrigent. Bon, c'est triste, pas la peine, je m'énerve. Façon les misogynes vont maigrir. Tu te crois peut-être chaud, mec, c'est trop bête. On va être honnête, t'es aussi claqué qu'un kéké en claquette, chaussette en clair, trompette. Dégage de ma vue, le clash t'a plu. Tu critiques. Ramène ta grosse fraise ou cache ta plume. J'en peux plus de lire, mille conneries par phrase. Ça dit tout, ça ne sait rien, tu captes l'ironie de la farce, si possible bâtard. Occupe-toi tes oignons et tes carottes. Ton opinion m'est égale, donc c'est idiot que tu commentes. Je l'ai froissé dans l'ordre, m'appelle plus bidule. Si tu sais que mon blast est Pandore, à trop tastique et sur YouTube. Tu vas mettre ton poignet en cloque, tu veux me balayer du rap, je t'enverrai nettoyer en loge. Je suis cet ex-mouton qui s'est éloigné de l'enclos. Toi tu penses ta vie est ouf parce que tu m'as croisé dans le drôme. J'ai envie de te noyer et te broyer ton dos. Toi qui derrière ton clavier te croyais un homme, sans rien à dire sur mon rap, donc ils jacquent sur mon look. Mais laisse gros, ça les fait fantasmer de croire qu'ils crachent sur une lesbo. Je suis pas joli à voir, vous dites, je suis la poule chromie, pas le coït. Mon talent de gaffe, donc tu vomis ta jalousie, le rap d'un bonhomme. Non, je frappe pareil, mais te fie pas à la dégaine. Déclare pas la guerre, mes mots, c'est comme des calages tchétchènes. T'as pas l'âge ni panache, ça prouve bien que t'es en yinche. Tu te prends pas ma vibe, pas grave, j'ai le soutien des anciens. Venu avec tes gros sabots, tu vas repartir en béquille. Ouais, t'es rien d'autre qu'un ado qui jouait à la Barbie quand j'écrivais. Loin de la grande vie, j'ai grandi près des candidatons. Je suis sensible, mais je suis resté tranquille quand j'ai senti l'affront. Je suis gentil et mon style garçon, c'est ma carapace. Peut-être parce que ce sont des peuplés de gens qui t'envient à fond. Je suis à ma place, je viens de la rue, comme l'art que je pratique de place. Un mic et je deviens artiste en herbe sous l'emprise de la scoop. Tout bouffé dans ce rap, j'ai l'appétit d'un quinri obèse. Et ils vont me détester comme un gamin de diocèse. Ou un lundi matin, un indique à la manière de petit Joe frère. Tu vas piger qu'un stylo blesse. Je danse ma valse solo dans le bal des hypocrites petits. Ils font la manche comme des clodos, les clones. Que dis-je, les cyborgs riment à les entendre. Si tu testes, tu t'exploses à ce qui t'explose la bouche. C'est drôle, ils rappent tous comme si on en avait quelque chose à foutre. Désolé, c'est chaud, mais utile de le mentionner. Je supporte plus ces cons à l'ego surdimensionné. Tant de mythophys qui ont du mal à s'avouer, qui veulent nous amadouer pour remplir leur frigo vide. Y'a des gens agents et que j'admire, d'autres entre les pintes et la weed. Mais j'ose pas te parler de ceux qui ont des dettes plein les narines. Y'a pas des héros, c'est dit. Faut cracher l'oseille, vite la pose, la rime c'est zéro. Mais tu vas acheter nos textiles. Le rap c'est mon havre de paix. Apaise les affres de mal, je m'en bats de te plaire. Et ça le savent les vrais. Kung Fu Pandore, vous vouliez voyager, on va vous foutre dans le coffre.
Wesh, wesh,
Chouette, vous êtes toujours sur Radio Galère 81.4 dans l'émission de ND Chaîne. Et donc voilà, pour conclure cette émission riche en émotions, on va écouter voilà, une pièce de théâtre qui a été écrite par Dario Fo et qui est au sujet des conditions de détention et notamment de la torture blanche par la privation sensorielle dans les prisons allemandes à l'époque de la Rotarmifraktion de l'armée, de la fraction armée rouge. Donc qui avait été largement emprisonné, le groupe entier, et donc là c'est tiré du témoignage plus de Ulrich Meinhof, d'un texte qu'elle avait écrit qui s'appelait Ulrich, j'écris, je crie, et donc là ça dure 20 minutes, et donc c'est sur les conditions de détention en prison pour les prisonniers politiques révolutionnaires. Voilà, c'est parti, ça dure 17 minutes, et donc voilà, vous êtes bien sur ND Chaîne.
Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf, Kopf, Kopf!
Prénom Ulrich, nom Meinhof, sexe féminin. Âge 41 ans. Oui, je suis mariée. Deux enfants nés par césarienne. Oui, séparée de mon mari. Profession, journaliste. Nationalité, allemande. Je suis enfermée ici depuis 4 ans, dans une prison moderne d'un État moderne. Crime. Attentat à la propriété privée, aux lois qui défendent ladite propriété et aux droits qui en résultent pour les propriétaires d'étendre sans limite leur propriété sur tout.
Tout.
Y compris notre cerveau, nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos sentiments, notre travail et notre amour. Toute notre vie. Aussi avez-vous décidé de me supprimer, patron de l'État de droit, votre loi est assurément égal pour tous, sauf pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vos lois sacrées. Vous avez porté à son comble l'émancipation de la femme. Car bien que je sois une femme, vous me punissez exactement comme un homme. Je vous remercie. Vous m'avez gratifié de la prison la plus dure, aseptisée, froide, mortuaire. Vous me soumettez à la torture la plus criminelle qui est la privation des perceptions. C'est une façon élégante de dire que vous m'avez enseveli dans un tombeau de silence. De silence et du blanc.
De silence et du blanc.
Blanche la cellule, blanc les murs, blanche les huisseries. La porte, la table. La chaise et le lit sont laqués de blanc, sans parler de la cuvette du cabinet. La lumière au néon est blanche, toujours allumée jour et nuit. Mais qu'est-ce que le jour? Qu'est-ce que la nuit? Comment puis-je le savoir? Par la fenêtre, il entre toujours la même lumière blanche. Un jour naturel, mais faux.
comme il faut sur la fenêtre et il faut le temps que vous m'avez
effacé en le pignon en blanc. Silence. Au dehors, nul son, nul bruit, nulle voix. Dans le couloir, on n'entend ni marcher, ni ouvrir ou fermer une porte. Rien. Rien que le silence et le blanc. Silence dans mon cerveau, blanc comme le plafond. Blanche ma voix si j'essaie de parler.
Blanche la salive qui se coagule au coin de ma bouche. Silence et blanc dans mes yeux, dans mon estomac, dans mon ventre qui se gonfle de vide. Sensation permanente de nausée.
Mon cerveau se détache du crâne au ralenti et rentre dans la chambre. Poussière éparpillée comme une lessive dans l'effroyable machine à laver de Stammheim, tel est mon corps. Je le ramasse. Je le rassemble. Je me recompose. Je dois résister. Vous ne réussirez pas à me rendre folle. Je dois penser, penser. Eh bien, je pense. Je pense à vous qui me mettez ainsi à la torture. Je vous vois le nez collé, écrasé contre la paroi de cet aquarium où vous me faites flotter. Et vous me regardez avec intérêt. Vous attendez. C'est de la vivisection.
C'est de la vivisection.
Vous craignez que je ne résiste. Vous craignez que d'autres, que les ouvriers, oui, vos ouvriers, protégés, robotisés, tout à coup ne se réveillent et n'aillent abîmer le bel univers que vous avez inventé pour votre seul profit. C'est grotesque. Vous me supprimez toute couleur, tandis que dehors, la grisaille de votre monde pourri, vous l'avez barbouillée des teintes criardes pour qu'on ne la remarque plus. Et vous forcez les gens à tout consommer en couleur, à boire en couleur, à manger en couleur, et tant pis si les colorants sont vénéneux et donnent le cancer. Vous barbouillez même vos femmes comme des pitres en folie. Mais moi, vous me condamnez au blanc pour que ma cervelle éclate et s'éparpille en mille confettis. Les confettis de votre carnaval, de votre Luna Park de la peur. Oui, vous affichez une assurance ostentatoire, mais c'est la peur, une immense peur qui vous rend à ce point cruel et fou. Et c'est pour cela que vous avez sans cesse besoin de la foire et du chahut. Des néons multicolores partout, des vitrines, du bruit, du fracas, de la radio et de la hi-fi toujours et partout. Dans les grands magasins, chez vous, en voiture, au bar et jusque dans votre lit quand vous faites l'amour. C'est la peur du silence que vous m'imposez. Parce que c'est vous qui tremblez de rester seul avec votre cerveau. Car vous avez le doute horrible qu'il ne soit pas le meilleur du monde, mais le pire. le plus dévasté. Et si vous m'avez enfermé dans cet aquarium,
si seulement parce que je ne suis pas d'accord avec votre vie.
Non, je ne veux pas être une de vos femmes sous cellophane. Je ne veux pas être tendrement présente avec des petites rires et des sourires bêtement aguichants à votre table du samedi soir dans un restaurant exotique sur un fond de musique stupide mais en haute fidélité. Ni devoir m'efforcer d'être triste juste ce qu'il faut et complice et tout à la fois imprévisible et folle, puis enfantine et sotte, et fouettée et frustrée, maman et putain, et prête au quart de tour à rire pudiquement en fossé de vos trivialités éculées. Un léger bruissement. La porte s'ouvre. C'est la gardienne avec le repas.
Elle me regarde comme si je n'existais pas.
Comme si j'étais transparente.
Elle ne dit rien.
Elle a ordre de ne rien dire. Elle pose le plateau et s'en va. De nouveau, le silence.
De nouveau, le silence. Un burger,
un verre de jus de fruits, des légumes, une pomme.
Assiette en carton, verre en carton. Ni couteau, ni fourchette, rien qu'une cuillère en plastique molle, comme du caoutchouc.
Ils ne veulent pas que j'aie l'idée de me supprimer.
C'est à eux de décider. Le moment venu, ils y penseront eux-mêmes.
Ils me donneront l'ordre de me suicider.
Et comme dans cette cellule, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres ou accrocher une ceinture ou un drap torsadé pour se pendre. Ils me donneront même un coup de main.
Peut-être plus qu'un coup de main. Du travail bien propre, comme cette social-démocratie qui se prépare à me tuer dans l'ordre.
Personne ne m'entendra crier ni me plaindre.
Dorme, agar et bien nourrie.
Habitants de l'Allemagne, mon pays. Habitants de l'Europe, vous les bien pensants, dormez avec la sérénité des morts. Mon cri ne peut vous réveiller. On ne réveille pas les autres. Dans le cimetière. Les seuls dans la haine et la colère monteront, ce sont ceux qui suent et qui grèvent dans la salle de machine de votre grand navire.
En avant, vous tous, immigrés, turcs, espagnols, italiens, grecs, arabes.
Les bernés et les baisers de toute l'Europe et les femmes. Toutes les femmes qui ont compris qu'elles sont des êtres inférieurs. Ils comprendront pourquoi je suis ici et pourquoi cet État a décidé de me tuer. Exactement comme une sorcière au temps des sorcières. Et ils seront convaincus que pour le pouvoir, c'est encore et toujours le temps des sorcières. Des sorcières qui doivent se tenir au métier à tisser, aux machines, aux bresses, à la chaîne, au bruit, ou fracas aux stridences. Le bruit. J'ai besoin de bruit. Vous l'avez inventé pour votre profit. Et c'est moi qui en profite. Je me fais du bruit pour moi toute seule. La presse. Le marteau pilant. La perceuse. Les chaudières. Le gaz. Le gaz fuit. Ça fait tousser. La chaîne. Va, rythme, va en cadence, rythme. Assez, arrêtez les machines, silence. Comme c'est beau, le silence.
Comme c'est beau, le silence.
Julien. Juge politicien, je vous ai bien eu. Vous ne réussirez pas à me rendre folle. Vous serez obligé de me tuer en pleine santé. En pleine santé mentale et spirituelle. Vous devrez m'assassiner.
Déjà,
je vous vois accourir pour cacher mon cadavre. Arrêtez mes avocats à la porte.
Non,
on ne peut pas voir Ulrike Meinhof. Oui, elle s'est pendue.
Non, vous ne
pouvez pas assister à l'autopsie. Personne. Seuls nos experts d'État dans la décision est déjà arrêtée. Ulrike Meinhof s'est pendue. Mais il n'y a pas de signe de strangulation. Pas de cyanose du visage. En revanche,
il y a des bleus sur tout le corps.
Reculez, circulez, ne regardez pas. Il est interdit de prendre des photos. Interdit de demander une contre-expertise. Interdit d'examiner mon cadavre. Interdit d'imaginer, de penser, de parler, d'écrire. Interdit. Tout est interdit.
Oui, tout est interdit. Mais vous ne pouvez jamais nous interdire de ricaner devant votre énorme imbécilité.
L'imbécilité classique des assassins. Lourd, mon cadavre. Lourd comme une montagne, mais cent mille bras des femmes et d'hommes la soulèveront cette montagne immense et ils vous écraseront dessous dans un terrible éclat de rire.
Voilà, c'était une des chaînes sur Radio Galère 88.4.
Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, voilà, et à bientôt. Gardez la haine.
Et gardez l'amour de ceux qui ont la haine.
La haine a su vous séduire, alors sachez l'entretenir.